et bienvenue sur Caribbean Lifestyle, un podcast qui vise à valoriser le mode de vie caribéen tout en prenant en compte les spécificités de cette région. Je suis votre hôte Anaïs et je suis originaire de l'archipel de la Guadeloupe.
Bonjour à tous. Bonjour Marie-Edith, comment vas-tu?
Très bien, merci. J'espère que toi aussi.
Oui, ça va très bien de mon côté. Alors, pour l'anecdote, Marie-Edith est une amie depuis un bout de temps. Je ne vais pas dire depuis combien de temps. Nous nous sommes rencontrés en classe préparatoire en Guadeloupe. Et pour moi, c'est une future spécialiste des questions de résilience et de développement durable dans la Caraïbe. Et c'est aussi une amoureuse de la Caraïbe. Est-ce que tu peux te présenter auprès des auditeurs?
Alors, bonjour à tous, je suis Marie-Edith Vincennes, je suis une Guadeloupéenne, moulienne plus précisément. J'ai 28 ans, je suis littéraire dans l'âme, diplômée d'un institut d'études politiques, donc Sciences Po Bordeaux, et je suis spécialisée dans les politiques de gestion des risques naturels et de sécurité alimentaire. Donc voilà, aujourd'hui, je coordonne un projet européen qui s'appelle Transformar à l'ADEME Guadeloupe. L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. Et je suis aussi ambassadrice du mouvement jeunesse de l'association Contact et Recherche Caraïbes, donc le CORECA.
Multicasquette.
Voilà.
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de poursuivre ce parcours d'études et ensuite de te spécialiser dans la gestion des risques et aussi dans la sécurité alimentaire, si je ne me trompe pas.
Alors, je suis fille d'agriculteur, je suis une fille de la campagne, des grands fonds du moule. Donc, j'ai très vite compris la notion d'écosystème, du fait que la terre nous rende service et si on lui rend service à elle, donc l'idée de planter une graine et de voir pousser un fruit. J'ai aussi très vite compris la notion de risque, en fait, puisqu'il faut savoir que le métier d'agriculteur, c'est un métier qui est très difficile. Toute la famille est mise à contribution, même les enfants. Hein. Et la notion de perte, les pleurs, les larmes arrivent très tôt, puisque quand il fait trop sec et quand il pleut trop, ben on perd tout le fruit de notre travail. Donc, il y a aussi d'autres risques, hein, tout ce qui est vol, etc. Mais c'est sûr que le risque naturel en lui-même, puisque l'agriculture est l'un des secteurs le plus exposés au changement climatique, je pense que c'est ça qui m'a donné envie. Alors, à Sciences Po, il y avait un tronc commun. Ensuite, on choisit sa spécialisation. Quand j'ai vu la fiche technique de ce master-là en gestion des risques, quand j'ai vu les matières qui étaient enseignées, mais aussi les débouchés, j'ai su que la gestion des risques, c'était le bon choix. Voilà. Bon, après, en ce qui concerne donc la sécurité alimentaire, le choix aussi des pays dits du Sud, hein, donc plus spécifiquement, je suis spécialisée dans les zones Afrique subsaharienne et Amérique latine, Caraïbes. Donc, c'est simplement que ce sont des régions qui m'intéressent en tant qu'afro-descendante et caribéenne, et je savais que je vivrais dans l'une de ces régions. Donc voilà, ce sont des régions qui ont de gros retards de développement en termes d'autosuffisance alimentaire. Donc c'est tout ça qui a un peu rythmé le choix de ce parcours-là de mon côté.
Beau parcours en tout cas. Wow, super. Tu as dit aussi dans ta présentation que tu étais ambassadrice du mouvement jeunesse, du CORECA. Peux-tu nous en dire plus?
Alors, donc le CORECA, c'est une association qui existe depuis les années 90. Hein. Donc, j'ai toujours été proche du CORECA sans y être vraiment à fond. Donc, ça a commencé quand une amie à ma sœur, qui faisait partie de l'association, a accueilli des étudiants de l'Université de West Indies, des étudiants trinidadiens, chez elle, et elle les a ramenés à la maison. Donc, tout de suite, ça m'a intéressée. Alors, j'étais assez jeune, hein, je vois donc, des jeunes trinidadiens qui parlent anglais, qui racontent un petit peu comment ça se passe chez eux. Je commence à voir les différences et les similitudes aussi, puisque je me souviens qu'elle disait, par exemple, que la Guadeloupe est assez petite, qu'elles, ce sont des kilomètres pour avoir accès à la première plage. Et donc, elles aimaient bien ça en Guadeloupe. Donc, c'est là où je commençais un peu à m'interroger sur le bassin caribéen. Ensuite, il faut savoir que ma première demande de stage, elle était au CORECA. Donc, bon, on ne m'a pas accepté hein, parce qu'à l'époque, on ne prenait pas de stagiaire. Mais suite à ça, en fait, j'avais commencé à suivre le CORECA sur Facebook. Donc, à l'époque, c'était le réseau social en vogue. Et donc, du coup, je voyais qu'ils faisaient des actions humanitaires, enfin, de solidarité avec la Dominique et Haïti particulièrement. Et donc, je voulais faire mon stage là-bas. Au final, en grandissant, j'ai donné un coup de main sur des actions ponctuelles de collecte. Et puis, c'est en 2020, avec le Covid, il y avait beaucoup de jeunes déprimés, au chômage ou un peu en échec scolaire aussi, plutôt abandon. Donc, beaucoup sont revenus, faisaient du télétravail pour les jeunes professionnels et des cours à distance pour les étudiants. Donc, ils cherchaient du travail hein, pour les chômeurs. Ils s'étaient inscrits à l'Université des Antilles, certains. Donc, l'Université des Antilles a connu un boom hein, dans la période Covid. Donc, moi, j'étais de retour, puisque un peu, je vivais au Sénégal depuis déjà un an et demi. Et j'étais un petit peu voilà, aussi déprimée. Hein. Je bossais à l'ONU, au Fonds d'équipement des Nations Unies. Mes missions me plaisaient beaucoup. Mais c'est vrai qu'on était dans un contexte où le Covid, personne n'expliquait vraiment ce que c'était. On ne savait pas encore. Et c'était un peu apocalyptique. Donc, j'ai décidé de rentrer. Moi-même, j'étais en situation précaire, hein, service civique. Et il y avait un autre jeune aussi qui avait adhéré au Coreca récemment et qui était à la recherche d'un emploi. Et il y avait aussi une autre fille qui faisait des cours à distance. Donc, elle était, je crois, étudiante à la Sorbonne, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, elle était doublement déprimée parce que déjà, ben, tous ses cours étaient à distance. Elle était enfermée dans sa petite chambre, donc elle a décidé de revenir en Guadeloupe. Et ensuite, parce que par manque de visibilité sur l'avenir, hein, par manque de connaissances Covid, l'établissement avait annulé son année à l'étranger qu'elle avait négociée à Trinidad. Donc, on se retrouve tous les trois, un peu déprimés. On est inscrits au Coreca. Et en fait, je pense qu'on voulait se sentir utile. On voulait occuper notre temps libre avec des discussions, des activités constructives. On voulait développer des compétences extrascolaires, du coup, pour elle et extra-emploi, on va dire, pour les deux autres. Et c'était une belle leçon, puisqu'on avait voyagé, on avait étudié bah, partout. On avait pour projet aussi d'étudier hein, dans le cas de l'autre jeune fille. Mais en temps de crise, notre intérêt il se portait sur notre région. Il fallait qu'on rentre chez nous. Comment dire que la lombric en itéré, on va dire. Et notre intérêt s'est tout de suite porté vers ben, la Caraïbe, la Guadeloupe, premièrement, et ensuite la Caraïbe. Donc, on a commencé avec des webinaires sur des thématiques qui préoccupaient les jeunes de la région, puis des articles hein, sur la manière de célébrer les défunts en Guadeloupe, par exemple, ou alors des partages d'expériences avec des jeunes qui sont basés dans la Caraïbe. Donc, aujourd'hui, on est lauréat d'un appel à projet qui s'appelle Je coopère avec les pays de l'OECO. Et on espère mener à bien un beau projet qui s'intitule Carib Excellence. Donc, Carib pour Caribéen et Excellence pour le concept un peu de revalorisation du potentiel des jeunes Caribéens. Donc, voilà, on mène des actions auprès des lycéens et des étudiants pour leur enseigner les défis et les opportunités hein, de la coopération dans la Caraïbe.
Ok, beau projet. Je pense que l'un des, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais l'un des côtés positifs du confinement et du COVID, c'est qu'on s'est retourné vers nos origines, notre identité, entre guillemets. Je ne sais pas si
C'est ça.
c'est pareil pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai eu le même ressenti que toi et que les deux autres jeunes. C'est-à-dire que je me suis dit, je suis chez moi, je ne connais pas tout déjà chez moi en Guadeloupe et à fortiori, je ne connais pas tout dans la Caraïbe donc.
Ça s'explique un petit peu statistiquement, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'études sociologiques parce qu'on n'a pas, on manque de recul. Mais je pense que ça devrait être un bon point parce que moi, je l'ai vu. J'ai vu donc l'explosion des associations de retour au pays, compte Instagram retour au pays. On voit que voilà, Caraïbes Expat aussi, pas mal de rencontres à ce moment-là. Le concept prend une nouvelle tournure. Donc, il y a des concepts qui étaient peut-être déjà existants, mais qui se sont renforcés pendant cette période-là. Et il y a des concepts qui carrément sont nés de cette période-là. Donc, je pense qu'on le voit autour de nous, qu'il y a pas mal de jeunes qui ont réagi comme ça, mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas encore le recul nécessaire ou d'études portées sur ça. Mais en tout cas, c'est un beau sujet d'étude, peut-être que pour les
Oui.
auditeurs qui seraient intéressés, les sociologues, futurs sociologues, peut-être que ça peut les intéresser.
Tu as dit aussi que tu as pu voyager au Sénégal et je sais aussi que tu as pu voyager et étudier dans la Caraïbe ou encore tu as pu voyager pour le plaisir. Comment t'es-tu senti lors de tes différents séjours et qu'est-ce qui t'a le plus marqué, positivement ou négativement?
J'ai moins visité la Caraïbe que l'Europe, malheureusement. Mais j'ai été à Saint-Martin, à la Dominique et à Sainte-Lucie. J'ai vécu en Guadeloupe, bien sûr, mais aussi en Martinique et en Jamaïque. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, lorsque je suis dans la Caraïbe, bon, on va dire que je suis un peu bipolaire. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça veut dire que je suis à la fois dépaysée et à la fois pas dépaysée du tout. Bon, je m'explique. Je suis dans la continuité de ce que je connais chez moi. Donc, je ne suis pas dépaysée ni par le climat, ni par la culture musicale, ni par la culture culinaire. On est assez similaires dans le fond. Mais je suis dépaysée parce que je pense que ce qui me marque le plus, ce sont les paysages à couper le souffle. Donc, Piton à Sainte-Lucie, la femme couchée à la Pointe-Marin, je pense que c'est ma plage préférée en Martinique, les Blue Mountains en Jamaïque. Et en fait, dans la Caraïbe en général, on peut avoir des kilomètres de sable noir, puis du sable doré, puis du sable blanc, des kilomètres de forêt, des chaînes de montagnes. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est l'incroyable diversité des paysages. Et ça m'a conforté aussi dans mon choix de carrière à travailler dans tout ce qui était environnement, biodiversité et agriculture.
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué négativement? Parce que je trouve que c'est important quand même de le mentionner.
Oui, alors négativement, je dirais le niveau de vie. C'est ça que je voudrais voir en fait se développer dans la Caraïbe. Je vais dire que c'est une région trop riche pour être aussi pauvre. En termes de revenus, mais pas seulement. J'entends aussi la pauvreté des infrastructures, des réseaux routiers, des réseaux électriques. Je pense qu'en améliorant le niveau de vie, en effet, boule de neige, hein, il y aura l'élévation aussi du niveau d'éducation pour qu'on puisse avoir sur place des compétences qui sont adaptées à nos besoins. Et c'était là le combat des intellectuels caribéens. Vous savez que je suis une passionnée d'histoire. En tout cas, je l'ai été maintenant, j'ai moins le temps de lire, mais j'étais une passionnée d'histoire. Et c'était le combat des intellectuels américains, puis caribéens, parce que les caribéens les ont un peu imités, qui ont milité hein, pour qu'on puisse avoir accès à une formation de qualité dans la région, à adapter des parcours aux besoins de la région. Donc ça se fait encore, hein, le dernier, c'est le master de Pascal Saffache, hein, qui est géographe et qui a créé un master en aménagement des territoires insulaires à l'Université des Antilles, Paul Martinique, je crois. Donc, l'idée d'avoir des parcours adaptés à nos besoins pour pouvoir anticiper les besoins de la région et pouvoir y répondre nous-mêmes avec notre propre main-d'œuvre. Si on arrivait à faire ça, je pense que ce serait bien. C'est ça qui m'a marqué négativement et que j'aimerais voir évoluer, c'est peut-être le niveau de vie.
Je pense que tu as anticipé ma prochaine question, donc qui était que souhaites-tu voir se développer ou changer ou s'améliorer dans la Caraïbe?
Oui, c'est ça, c'est vraiment, c'est quelque chose, c'est assez marquant. Hein. C'est-à-dire que après, nous, on se plaint souvent dans les Antilles françaises, on a un minimum de confort et c'est vrai que quand on voyage, on
On
voit
voit la
le gap.
différence.
Ouais, et on oublie, en fait, on fait partie de ce bassin caribéen et on oublie Haïti, qui fait partie de la région et le pays, l'un des pays le plus pauvre du monde, il a quand même tenu la première place. Je crois qu'il a été récemment dépassé. On compte quand même un pays moins avancé qui est dans la classification de l'ONU, hein, les pays les plus pauvres. Et quand on regarde aussi le PIB, voilà, c'est compliqué. En fait, on s'en rend pas compte avant d'y avoir mis le pied. C'est-à-dire qu'on le sait parce qu'on se dit, bon, voilà, ben ce sont des pays en développement. Le voir et le vivre, je pense que c'est différent.
Enfin, si je fais un parallèle par rapport à ce que tu dis, lors de mes voyages, effectivement, bon, j'ai pas autant voyagé dans la Caraïbe, j'ai dû faire trois pays étrangers. Et ben, déjà qu'on arrive dans un pays, un autre pays que le nôtre, qui est entre guillemets moins développé que le nôtre, on a un peu ce choc. Et lorsqu'on discute avec les locaux, on se rend compte que c'est compliqué d'expliquer. Par exemple, moi, ce qui m'a marqué, c'était, enfin, ce qui me manque toujours aussi, c'est de pouvoir expliquer pourquoi nous, on fait grève, alors que ça
Ah
semble
oui.
être une aberration pour eux. Ça
Ah oui, non,
me
mais
choque à chaque fois, en fait, et c'est
c'est ça.
difficile d'expliquer.
C'est sûr, après, on paraît un peu pour des enfants gâtés,
Oui.
mais en fait, c'est parce qu'on se compare à un standard européen et on ne l'a pas. Donc, quand on change de standard et qu'on va vers un pays en développement, bien sûr, on est mieux doté, Mais ça ne veut pas dire qu'au sein de la démo d'une démocratie, ça ne veut pas dire que c'est normal d'accepter certaines choses. Et je pense que c'est comme ça, quand on veut l'expliquer, il faut prendre ce prisme-là. Il ne faut pas chercher à comparer la Guadeloupe et la Dominique ou la Guadeloupe et Sainte-Lucie. Il faut chercher à replacer la Guadeloupe comme étant un département, une région de France et donc une région européenne qui doit normalement, qui a des droits et des devoirs et qui n'est pas censée hein, avoir des infrastructures aussi vétustes. D'ailleurs, j'ai pas eu autant de problèmes d'eau en Jamaïque qu'ici. Donc voilà, ça montre qu'il y a quand même un problème. Et quand on voilà, quand on regarde l'hôpital, où on est censé avoir un système où on est directement prélevé sur nos salaires, nos rémunérations ou à travers des taxes, on est censé avoir un système exemplaire en termes de sécurité sociale, etc. Quand on voit la prise en charge. Voilà quoi, on n'est pas digne d'un pays français, d'une région française ou d'un pays européen, et donc c'est pour ça que je pense que il faut replacer le curseur en disant on n'essaie pas de vous snober, faut pas voilà, faut replacer les choses dans leur contexte. Au sein de la Caraïbe, on est peut-être plus avancé, mais en tout cas en tant que région européenne, il y a un retard incroyable à rattraper quoi.
Exactement. Au début de l'épisode, j'ai dit que tu étais une amoureuse de la Caraïbe. Tu as pu commencer à l'expliquer dans ce que tu disais auparavant. D'où te vient cet amour? Est-ce que cela a toujours existé? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Ou au contraire, est-ce que c'était un cheminement par rapport à ce que tu as vécu dans ta famille, dans ton foyer?
Alors, c'est une question difficile. Je pense pas avoir toujours eu cet amour de la Caraïbe. Mais je pense pas que c'était un cheminement dans le sens où j'ai dû apprendre à aimer la Caraïbe. Alors, je m'explique. C'est entre les deux. C'est-à-dire que j'ai pas toujours eu ça n'a pas toujours été là parce que j'ai voyagé très tard. Donc mon premier voyage c'était à Paris avec la classe préparatoire aux grandes écoles du lycée de Gerville-Riache. Donc c'est uniquement en licence que j'ai eu l'opportunité d'aller en Martinique et de là-bas j'ai été à Sainte-Lucie. Alors tout ça avec ma carte d'identité hein, je pense que j'ai créé mon passeport pour me rendre en Jamaïque en 2017. Je crois que c'était une obligation d'avoir le passeport. Donc, du coup, quand même, on est en 2022, j'ai eu mon passeport en 2017. Je n'ai pas toujours été une amoureuse de la Caraïbe comme je suis aujourd'hui, mais j'ai toujours été caribéenne dans ma façon de penser, hein, parce que mon père, voilà, c'est un indépendantiste, c'est quelqu'un qui a toujours mis l'accent sur quand on entendait des choses comme si vous prenez l'indépendance, vous allez être comme Haïti ou comme Cuba, on va vous boycotter, vous mettre à part, etc. Ben, mon père, au contraire, il a toujours un peu cherché à nuancer un peu ces propos-là en disant, oui, mais certes, Fidel Castro est un dictateur, mais il y a des choses qu'il a faites et qu'il a bien faites. Donc, du coup, j'ai toujours été caribéenne dans cette façon de penser-là. J'ai toujours aussi été caribéenne dans ma façon de manger. J'ai toujours plus aimé les racines et les riz rouges que les pâtes. D'ailleurs, je mange pas de pâtes, toujours pas. Toujours, il y a problème avec ça là. Donc, dans ma façon de danser, dans la musique que j'écoute, mes parents écoutaient beaucoup de compas, de calypso aussi et de zouk. Et moi, pareil, un compas, zouk, beaucoup de soca, calypso un petit peu moins comme mes parents, beaucoup de reggae aussi. Mes parents écoutaient pas mal de reggae. Je pense que c'est quelque chose que j'ai nourri, que j'avais déjà, sans être consciente que je l'avais. Et c'est en me confrontant aux autres îles de la Caraïbe que je me suis dit, ah oui, il y a quelque chose là. Je peux dire que je suis un pur produit de la Caraïbe et je pense que c'est ça en fait. Quand on est dans un système, on n'en est même pas conscient, on est dedans. Et c'est au moment où on part, où là je regarde la France, j'échange avec mes camarades de classe. Voilà, là je comprends que je suis caribéenne. C'est le fait de quitter la Caraïbe qui m'a un peu ramenée à cette Caraïbe-là.
Je partage ton expérience et ton sentiment. J'ai eu à peu près la même, c'est arrivé assez tard. Et c'est vraiment quittant la Guadeloupe que je me suis dit non. C'est bon, il faut que je revienne aux sources. Alors, ben, l'essence du podcast, comme on le sait déjà, les auditeurs qui nous écoutent le savent certainement déjà, c'est de valoriser le mode de vie caribéen. Et avec toutes tes expériences, tes voyages et aussi ton intérêt pour ta région au sens large, pour toi, qu'est-ce que le mode de vie caribéen? Comment tu le définis? Comment tu le caractérises?
Alors, c'est une question difficile. Donc, le mode de vie caribéen, je dirais que c'est la débrouillardise, le hustle, comme on dit en Jamaïque. C'est le hustle. En fait, tu peux avoir un bac plus 10, tu peux avoir un bac moins 35. Tu seras toujours obligé de faire des bouillas, comme on dit en créole. C'est quelque chose de. Il y a pas. Alors, ce sont des petites îles, de petits territoires, ou alors quand ils sont plus grands, comme la Guyane, il n'y a pas pour autant beaucoup plus d'opportunités. Ça, c'est lié à un niveau de développement en général. Donc, on n'a pas ce qu'on veut tout de suite. Et parfois, ben, il faut faire autre chose. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai voyagé. J'ai pas, j'ai, je pense que c'est un, je ne veux pas dire que c'est caractéristique que de la Caraïbe, parce que je l'ai un peu retrouvé au Sénégal et au Togo. Mais on fait ça très bien. On fait ça très bien. On prend un chariot, on le convertit en espèce de poussette de vente de fruits. Voilà, on a un doctorat, c'est pas grave, on n'a pas trouvé, on a trouvé un service civique, on fait un service civique avec un doctorat. Et je pense que autant en France, c'était ben, je prends mon temps, je m'inscris au RSA, ou je perçois le chômage, en attendant, je cherche un emploi. Nous, nos parents vont dire cherche un bitin pour faire quoi. C'est vraiment, c'est plus de la. Et même nous, on ne va pas aimer le fait de rester là
De ne
et de
rien
rien
faire.
faire. On va, voilà. Et je pense que c'est un mode de vie qui nous caractérise tout le temps. Même pour les élèves hein, qui sont scolarisés, c'est OK, le bus est en retard ou aujourd'hui il pleut. On est qu'en alerte jaune. Donc, même si je sais que dans peut-être 3 heures, on va me rappeler pour rentrer chez moi, je dois aller à l'école. Et donc, du coup, ben voilà, il pleut, j'ai les chaussettes mouillées, j'enlève mes chaussures, je traverse la salle. C'est tout le temps et ça commence dès le plus jeune âge. Et voilà, je pense que c'est plutôt ça. Après, c'est un mode de vie, quoi. Les gens, c'est un mode de vie à l'accéléré, je trouve. Et pourtant, il y a de faux stéréotypes hein, qui parlent de lenteur quand on est dans la Caraïbe. Mais je pense que c'est vraiment le manque de connaissances, de perception de l'autre qui amène à ces pensées-là. Parce que voilà, c'est un mode de vie assez accéléré. Ça commence, la journée commence très tôt. Et la journée commence, ben là encore pour les enfants, avec si tu as un animal domestique, il faut que tu t'en occupes. Donc un chien, un chat, un lapin, mais s'il n'est pas domestique aussi, tu dois t'en occuper. Tu dois aller détacher tes cabris, aller donner à manger à tes cochons. C'est vraiment en fonction en fait d'où tu habites, si tu es plutôt de la campagne ou ou de la ville. Mais en tout cas, il y a toujours des corvées. Toujours des choses à faire et généralement le réveil il est assez tôt. Le début des cours ou du travail c'est assez tôt comparativement à d'autres régions du monde. Et on finit à peu près dans les mêmes eaux. Je pense que c'est un mode de vie un peu à l'accéléré. On a des journées bien pleines, on fait pas mal de choses. Voilà, je pense que le mode de vie le plus proche du mode de vie caribéen que j'ai vu, c'était plutôt en Afrique. Voilà, tu as l'obligation, tu as les parents qui sont malades, tu passes boire le café avec eux le matin ou alors tu passes les voir le soir. C'est la journée ne s'arrête jamais, ni pour les plus jeunes, ni pour les plus âgés. On vit au rythme du lever et du coucher du soleil, en fait.
Merci pour ce partage. Ben, moi, ça m'a touchée, ouais. Je comprends parfaitement. Ben, on arrive aussi à la fin de l'épisode. Et on a une question signature dans le podcast qui est, ça rejoint certainement ce que tu as dit auparavant, mais pour toi, qu'est-ce qui fait la particularité de notre région caribéenne et que l'on ne retrouve pas ailleurs? Quelque chose, qui fait de nous que
Ah.
nous sommes uniques.
Alors, je dirais l'ambiance. J'ai beaucoup voyagé en Europe, un peu en Afrique. J'ai jamais vu autant de vibes. Ce qu'on appelle la vibe, c'est carrément devenu un mot créole grâce au pont qui a été fait dans le compas entre le créole haïtien et l'anglais. La vibe, c'est dans les rues. À chaque vacances, en fait, même pas que des vacances, les public holidays, là, c'est vraiment la journée des langues, c'est vraiment quelque chose. Alors, il faut savoir que quand j'étais à Sciences Po Bordeaux, je travaillais à la bibliothèque et je faisais aussi quelques interventions dans des écoles par rapport à une association qui s'appelle DKLD, dont j'étais membre. Et quand il y avait une journée des langues, voilà, c'était. Nous, Journée internationale du créole, c'est quelque chose. Il y a des événements partout, les gens marquent le coup, ça se voit dans la façon de s'habiller. Fêter Pâques, même Easter en Jamaïque, c'est énorme. C'est énorme. Il y a des fêtes partout, dans les foyers, les gens sont invités à manger. Le carnaval en Guadeloupe, c'est du premier dimanche de l'année jusqu'au jour gras. Et puis un dernier petit coup avec la mi-carême, après on a un masse vacances, juillet, août. Enfin, c'est les Friday Night à Sainte-Lucie, les samedis système en Dominique, le tour des Yoles en Martinique, c'est en fait, c'est tout le temps. Et je pense que malgré hein, ce niveau de vie qui n'est pas très élevé et malgré les difficultés, on sait vivre en fait. Et beaucoup de personnes, quand je regardais les témoignages de la page Retour au pays sur Instagram, beaucoup de personnes disaient qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de parfois prendre les choses à la légère. Et on n'est pas dans ce métro boulot dodo, on n'est pas c'est vraiment même chez nous, allumer la radio ou voir ses parents, voilà, se déhancher devant un concert à la télé, il y a qu'un seul qui passe. L'ambiance, elle est partout, elle est là tout le temps. Et ça, même si ben, on a un coup dur. Et on le voit même à travers les veillées mortuaires, hein. C'est quand même des funérailles où va y avoir de l'ambiance parce que on est toujours dans une sorte de célébration et je pense que ça, moi j'ai vu ça nulle part, hein. Même en Afrique, là, ça arrivait, mais même en Afrique, on n'a pas, non, j'ai pas vu ça. Et nous, quel que soit le système de colonisation qui impose aussi parfois des religions qui peuvent être assez strictes, bon, ça dépend. Ici, hein. Si on va avoir par exemple des religions protestantes qui vont être plus conservatrices sur tout ce qui va être carnaval, alors qu'au contraire, dans la Caraïbe anglophone, c'est eux qui sont les premiers à faire partie des bandes et des chars. Donc ça dépend. C'est vrai que le Sénégal, c'était plutôt musulman. Mais je pense que les autres pays, ils ont été beaucoup, beaucoup influencés par ces critères religieux qui ont un peu pris le pas sur leur culture. Et je pense qu'on est l'une des seules régions au monde à avoir pu conserver les deux. On fait ça très bien. Jusqu'à ce que l'Église catholique ait concédé de donner les cendres 2 fois dans la semaine parce qu'ils savaient que le mercredi des cendres, les gens faisaient leur déboulé. Et c'est quelque chose à La Réunion aussi, je sais qu'il y a eu beaucoup d'adaptations culturel. Donc, je pense qu'on n'est pas les seuls, mais en tout cas, on a ça chez nous qui fait que c'est assez particulier. Donc, je dirais, oui, l'ambiance, les célébrations culturelles, même le National Hero Day, c'est le jour des héros nationaux. C'est en fait, là, ouais, je dirais plus au-delà de l'ambiance, c'est vraiment l'aspect de célébration. Ça peut être la célébration d'une vie, comme je disais, pour l'éveillé. Donc, ouais, je dirais plutôt le mot, peut-être plus le mot célébration que le mot ambiance.
Merci pour cet échange riche. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Merci à toi. Je pense que j'ai déjà bien parlé. Je crois
Oui.
que rien.
Ben, je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation et aussi pour ce moment de partage. C'était vraiment très riche. J'ai appris beaucoup de choses aussi. Et je remercie aussi nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur Caribbean Lifestyle Podcast.
Si cet épisode vous a plu ou a attisé votre curiosité, vous pouvez le partager avec vos proches. Je vous invite aussi à le noter et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts. Ou encore à donner votre avis sur le compte Instagram @caribbean.lifestyle.podcast. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.